Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission spéciale entièrement consacrée au site web Alone in the Past, qui était entièrement consacré au rétro gaming et qui proposait entre autres des tests écrits d'excellente qualité, dont voici la transposition sous forme de vidéo. Et on commence avec Tetris Plus 2 sur arcade. Tetris fait sans nul doute partie des plus grandes sources d'inspiration. On peut en trouver des dizaines de versions sur le net, sur un peu tous les supports existants. Un professeur et son assistante partent explorer les pyramides égyptiennes, mais rapidement, ils déclenchent un piège et se retrouvent bloqués dans une pièce où la sortie est obstruée par des briques de forme géométrique. Dans Tetris Plus 2, un plafond avec des pics descend de l'écran. Il faut rapidement former des lignes, car si le perso est en contact avec ce plafond, il meurt. Le perso, justement, il se présente sous la forme d'un petit personnage en SD qui peut escalader les pièces. Il attend juste que l'on dégage le terrain pour lui, mais cela renforce la difficulté puisqu'il faudra tenir compte du fait qu'il grimpe sur les pièces pour peaufiner sa stratégie afin qu'il ne se fasse pas toucher par le plafond. En ce sens, Tetris Plus 2 vise donc un public qui maîtrise déjà Tetris et qui souhaite du renouveau dans le concept. Les graphismes sont colorés et dans un style manga, tout comme la bande-son. Les bruitages et les mimiques des personnages qui ponctuent l'exclamation, tous leurs faits et gestes pour un résultat très kawaii et 100% nippon. Si le jeu commence gentiment, rapidement il va falloir s'accrocher pour terminer les niveaux. Mais en cours de jeu, via les embranchements, on peut toujours choisir son niveau de difficulté. Tetris Plus 2 est un portage très rafraîchissant permettant de retrouver l'excellent concept de Tetris dans un jeu différent, finissable, avec une technique de qualité, une influence clairement japonaise et l'intervention de personnages directement sur les pièces du Tetris. Dans Turrican, les règles du jeu sont simples. Vous êtes un cyborg livré avec plein d'options et allez devoir enchaîner des niveaux, parfois énormes mais toujours infestés de bestioles et robots, combattre des boss et tout faire péter d'une manière générale. À votre disposition, vous avez des mines, la transformation en gyroscope, sorte de roue dentée, le flash, un rayon de tir continu, deux lignes d'énergie permettant de nettoyer la totalité d'un écran, des grenades et bien sûr son arme à feu. Les niveaux ne sont pas construits pareils et n'ont pas la même taille. On y retrouve en revanche des constantes, telles qu'une bande-son excellente signée Chris Hulsbeg, qui réalisera aussi celle de X-Out la même année. Des thèmes propres à son style, à savoir dynamique, long et se prêtant tout à fait à un jeu d'action intense, comme c'est le cas ici. À travers les niveaux, on retrouve aussi un level design assez pauvre finalement, manquant cruellement de détails et n'exploitant pas correctement les parallaxes qui ne proposent généralement qu'une couleur unie ou un fond statique. Si Turrican a connu pareil succès, sa prise en main et sa jouabilité ont forcément quelque chose à voir là-dedans. Le perso répond au poil, effectue ce qu'on lui demande sans sourciller et la panoplie d'armes permet plusieurs alternatives. Une jouabilité qui se veut irréprochable, heureusement, puisque les derniers niveaux mettront à rude épreuve notre dextérité, puisqu'il faudra enchaîner des dizaines de sauts en diagonale. Turrican marque toute une époque placée sous le signe du jeu de plateforme, sur micro en tout cas, puisque ce genre a toujours été le fond de commerce des consoles. Malgré une difficulté qui aurait pu isoler le jeu au seul hardcore gamer et un graphisme pas encore tout à fait maîtrisé, Turrican parvient à sortir du lot grâce à une bande son énergique qui s'intègre parfaitement à l'action intensive que le jeu propose, en plus de sa jouabilité excellente, un titre vraiment défoulant. Directement importé de la borne d'arcade, Midnight Resistance est un jeu qui a remporté un succès certain auprès des joueurs acharnés qui exprimaient leur rage envers les sprites à coups de pièces de 10 francs. C'est donc avec engouement que le public a réagi aux multiples adaptations ordinateur-console disponibles alors et qui ont rendu célèbre ce jeu au même titre qu'une poignée de ses grands frères qui avaient déjà montré la voie. Si le jeu sur borne d'arcade est comme on peut s'y attendre très beau, il ne faut pas cracher sur les autres versions qui ont vraiment été gâtées de ce côté-là. Pour 89, voir un jeu aussi détaillé et fluide, ce n'est pas courant. Et si en plus on y retrouve le fun, que dire de plus ? La liberté d'action de mouvement du perso, qui peut tirer dans les 8 directions, donne lieu à des poses héroïques. Mais encore plus fort, il est capable de ramper et de se défendre des attaques toujours avec cette même liberté de tir. Ces déplacements sont réalistes et accentuent davantage le charisme de votre commando. Les niveaux vous dirigeront dans des fusillades entre soldats, faisant plus office de transition entre des boss que de réelles parties du jeu. Justement, les boss, ils sont en grand nombre et pourtant très différents les uns des autres, ce qui vous force à les aborder d'une certaine manière. Il va falloir apprendre la patience, car tous les boss se détruisent avec une stratégie rondement élaborée. Pour conclure, ce Midnight Resistance est une très bonne adaptation de la borne d'arcade, que ce soit sur Amiga ou sur Atari ST. Après le méga succès de Lotus, Magnetic Fields nous revient avec ce second opus qui se veut plus peaufiné. Première surprise est déjà le menu, bien plus esthétique et fonctionnel qu'avant. D'une simple pression sur les icônes, vous allez pouvoir choisir entre le mode 1 ou 2 joueurs sur un seul ordinateur ou en réseau via un câble Link. On a aussi accès à un mot de passe permettant de se rendre sur un circuit aléatoire en vue de se faire la main. À un joueur, le jeu est enfin en plein écran, et les décors, même s'ils ne sont pas aussi fouillés qu'un Outrun, sont clairement plus travaillés que le volet précédent. La voiture a suffisamment d'essence pour la course à présent. Encore un petit truc regrettable, car les pauses carburant donnaient un aspect tactique au jeu. Les circuits se veulent plus des types d'itinéraires que des pays. On retrouve donc un climat enneigé, un désertique, la ville, le brouillard, la pluie, etc. Sur la route, les concurrents zigzagent encore plus que dans Lotus 1, probablement pour vous empêcher de passer, et ça marche. Fini les 4 voies où l'on pouvait taper un pic de vitesse, on roule le plus souvent en 2 voies où il sera nécessaire de slalomer. Chaque circuit est découpé en plusieurs checkpoints à passer pied au plancher, comme dans Outrun, pour gagner des précieuses secondes. Un petit mot sur la musique donc, celle de l'introduction est particulièrement soignée, tout comme les petits morceaux entre les courses, servant à représenter le prochain circuit. C'est d'autant plus dommage de ne rien avoir durant le jeu. On devra se contenter simplement des bruitages, il n'y a malheureusement que sur micro qu'on pouvait penser infliger ça aux joueurs. Autant le premier Lotus fut une bonne surprise. Mais cette version manque cruellement d'ambition. A l'époque, pourtant, Lotus 2 était considéré comme la meilleure simulation automobile sur micro. Ce n'est clairement plus le cas aujourd'hui, et devant le manque de bonnes idées et les graphismes qui accusent le poids des âges, Lotus 2 ne convaincra que les nostalgiques.
Welcome to Bubble Ghost.
Bubble Ghost sur Atari ST sorti en 1987, ou comment faire un jeu à partir d'une bulle de savon. Vous êtes un petit fantôme et devez mener au bout des 35 niveaux votre bulle en prenant soin qu'elle n'éclate pas. Bubble Go, c'est le troisième jeu de Christophe Andréani après Karaté sur Auric et Turbo GT, qui fut le premier jeu français à sortir sur Atari ST. Le concept du jeu est donc d'enchaîner plus d'une trentaine de salles tout en soufflant sur une bulle pour la mener à bon port. Il faut prendre soin à ce qu'elle n'éclate pas et ainsi faire tourner son fantôme dans tous les sens avec les boutons de la souris pour le faire pivoter et ainsi permettre à la bulle d'éviter les objets contendants et les murs. La touche Shift, quant à elle, permet de faire souffler notre fantôme sur la bulle, mais s'il souffle trop longtemps, il s'essoufflera. Accueilli par un Welcome to Bubble Ghost, le jeu nous propose ensuite des bruitages très particuliers et assez déjantés, au niveau des graphismes qui, faute d'être spectaculaires, sont eux aussi assez barrés avec des objets insolites posés n'importe où. Bubble Ghost est le digne représentant de son époque, un concept excellent, une vraie personnalité dans sa réalisation complètement déjantée, ainsi qu'une faible durée de vie empêchant le titre de tomber dans la monotonie. Un petit jeu tout ce qu'il y a de plus charmant. Une chevauchée étrange autour des routes sinueuses du subconscient. C'est ainsi que l'on pourrait résumer Weird Dreams, qui n'est autre qu'un simulateur de cauchemar. Rêve étrange, jeu sorti de l'esprit tortueux de Hernan Serrano et James Hudgeby, graphiste et programmeur chez le britannique Renbird, un des studios les plus prolifiques et les plus novateurs outre-Atlantique. Mais ici, Renbird frappe fort, très fort, avec un jeu aux antipodes de ce qui se faisait à l'époque. D'ailleurs, le jeu fut longtemps retardé, sans que l'on sache exactement les raisons. Certainement inadapté aux standards auxquels étaient habitués les joueurs Amiga ST, lobotomisé par les adaptations d'arcade insipides et sans réflexion. Weird Dreams n'est pas violent, ou du moins, si à sa sortie la question pouvait se poser. À l'heure actuelle, évidemment, ce n'est plus le cas. Tout le but du jeu est justement de trouver les actions à entreprendre et de les réaliser avec un timing très très serré, où l'erreur n'est pas permise et conduit inéluctablement à une mort atroce. Bien peu de personnes peuvent se vanter d'avoir terminé ce jeu, surtout avec 5 malheureuses vies et une difficulté aussi mal dosée. Difficile de rester de marbre devant ce Weird Dreams. Si le jeu était plus maniable et moins difficile, il aurait pu être un hit, avec des graphismes hauts en couleur très détaillés au détriment du reste. Mais ce titre est toujours aussi surprenant et innovant, un thème qui ne fut pas repris depuis, mais pourtant qui aurait pu amener à des jeux aussi variés qu'étranges. C'est déjà la fin de cette émission hommage au site Alone in the Past qui a fermé ses portes en 2008. Un grand merci à Blood, Largo, Ranks et tous ses acolytes pour leur travail. On espère les revoir très bientôt sur le web. Et on se donne rendez-vous prochainement avec une formule classique. À bientôt sur Rétrovision.